CFM Villefranche, le mag.
Bonjour tout le monde, bon début de semaine, bon début de mois, lundi 1er juin et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous, c'est le magazine d'actualité de Bon Début de Semaine que je partage aujourd'hui avec Didier, Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Grand spécialiste des plantes aromatiques médicinales, sommité fleurie en biodynamie, vous nous avez embarqué au jardin il y a deux semaines et moi j'ai voilà, la chronique a continué à s'activer dans ma tête avec ces histoires d'ortie un peu trop souvent oubliées. Après c'est vrai qu'on a un jardin un peu au carré. En général, il n'y a pas beaucoup d'orties et il faut aller, faut aller en campagne pour, ouais, pour en trouver.
Ouais. Ou faut en mettre.
Ah. Est-ce que vous auriez des graines d'ortie? Je ne sais pas si ça se sème, les orties.
Chez les semenciers, oui. Mais bon, il suffit d'arracher quelques rhizomes d'ortie et les remettre à un endroit où la terre est riche.
Et vous nous aviez dit qu'on en trouvait là où il y avait eu de la chaux, je crois, près des anciens bâtis.
Moi, mon observation personnelle, c'est que j'ai des orties magnifiques au pied des murs de vieux murs qui étaient bâtis à la chaux et donc où il y a de l'enduit qui est tombé au pied du mur là, et là les orties ils ont des tiges gros comme mon petit doigt, c'est vraiment là qu'ils sont le plus gros.
Petite parenthèse introductive au propos les mains au jardin, la tête et tout le corps entier en fait au final parce que il y a tellement à faire. Allez, bon, on se retrouve après une rapide respiration musicale. Les orties suite certainement aujourd'hui, puis il y a la prêle aussi, vous nous en aviez parlé la dernière fois.
Thank you.
Vous venez de nous rejoindre, magazine d'actualité de bon début de semaine, de bon début de mois, édition que je partage aujourd'hui avec Didier Vallet, un spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri en biodynamie, Didier Vallet, pour le rendez-vous des hommes, des plantes et de la biodynamie. Didier, ortie, prêle, non, il y avait encore pas mal de choses à dire avec le purin d'ortie.
J'ai tellement de choses à dire, je ne sais plus par quel bout le prendre, parce que... Il y a des plantes dont je voudrais parler aussi quand même. Donc la prêle, on en parlera un peu plus tard, je pense. C'est pas tout de suite qu'on va l'utiliser au jardin.
La prêle qui aime bien avoir les pieds dans l'eau, non? Un petit peu, non. Un peu d'humide. Pas du tout. D'accord. Okay.
Alors on peut simplement la prêle qu'on utilise dans les jardins et qu'on utilise au niveau médicinal, c'est la prêle des champs. Et qui est un marvancé, le nom scientifique, le nom botanique. Et c'est une prêle qui n'a pas les pieds dans l'eau, mais par contre qui va pousser dans des endroits qui peuvent être humides, très humides à certains moments. Parce qu'elle a besoin de l'eau pour se développer, mais elle ne va pas pousser les pieds dans l'eau. Dans les pieds dans l'eau, c'est une autre prêle, Chrysetum palustris, la prêle palustre, qui est très haute, qui fait des grosses tiges.
Qui a des tubes creux.
Voilà, ouais. Qui fait des gros
tubes.
Elle
est belle, celle-là. Elle est décorative.
Elle est belle, ouais. Elle est décorative, mais elle n'a pas de propriété ni médicinale, ni pour le jardin.
Ah, pour les yeux.
Donc, on va la trouver dans des fossés, oui, dans des choses comme ça. Mais la prêle des champs, on la trouve dans des champs. Alors, ça peut être en bord de rivière, où l'eau peut dépasser de temps en temps un petit peu. Donc, quand même, des endroits humides. Ça ne va pas pousser sur le causse, voilà. Donc, j'avais envie, là on est début juin, j'avais envie un peu de parler des plantes, de nouveau de plantes médicinales, de plantes qui vont être en partie, qui encore un peu en fleurs début juin, mais qui vont bientôt passer. C'est une famille dont je n'ai pas encore parlé.
Ah! Après les labiacées, les boraginacées.
Qui n'est pas compliqué, ce sont les papaveracées.
Ah, les papaveracées, j'aime beaucoup. Ouais.
Papaveracées, ouais, ça. Donc les papaveracées, c'est la famille des pavots.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Papaver, c'est le nom scientifique du pavot.
D'accord.
Et donc, dans cette famille, on a trois... Il y a pas mal de plantes, hein, mais il y a trois plantes dont je voudrais parler. Il y a le coquelicot.
Ah bah oui. Ah, c'est beau, le coquelicot.
C'est beau. Ah. Il y a le pavot de Californie, l'Eschscholzia, qui est un peu moins... qui est surtout connu au niveau décoratif, niveau... les gens le sèment parce que c'est joli. Mais c'est une plante médicinale. Et puis, il y a le fumeterre. Tout ça, ce sont des plantes de la même famille, et c'est une famille qui s'exprime... Alors, c'est pas la famille vraiment du printemps, parce qu'au printemps, on va avoir les orties, on va avoir les pissenlits, les pâquerettes, toutes ces plantes médicinales. Les fleurs de printemps sont de couleur blanche ou jaune.
Oui.
On a,
oui, les coucous.
Oui, les coucous. Les coucous, c'est jaune, le pissenlit, c'est jaune, la pâquerette, c'est blanc. Ça ne veut pas dire qu'en été, il n'y aura pas des fleurs blanches. Hein. Mm-hmm. Mais on n'a pratiquement aucune fleur de couleur au printemps, à part des fleurs qu'on achète chez les pépiniéristes, des variétés, des primevères de couleur, mais qui ont été modifiées, qui ont été transformées. Hein. Mais là, je parle des plantes sauvages. Mm-hmm. Et... quand arrive le mois de mai, là, on arrive dans des couleurs, le rouge, l'orange, le violet, des choses comme ça. Donc, le coquelicot, déjà le rouge. Alors, pour moi, je me rappelle tout petit, dans les champs de blé chez mes grands-parents, les champs de blé, c'était magnifique parce que il commençait à être un petit peu haut déjà, fin mai, début juin. Et il y avait des coquelicots. Il y avait...
Des champs de coquelicots.
Maintenant, c'est parce que maintenant, on voit quelquefois des champs qui sont tout rouges. Un envahissement de coquelicots. Alors qu'à cette époque-là, il y avait des coquelicots par-ci, par-là, qui étaient mélangés avec des bleuets aussi. Et puis des reines marguerites. Le rouge, le bleu, blanc, rouge, le bleu du bleuet, le blanc de la reine marguerite, le rouge du coquelicot. et donc, on retrouvait tout ça dans les champs de blé. Et les champs de blé, c'était quelque chose avec plein d'insectes qui se baladaient, parce que le coquelicot et le bleuet attirent beaucoup les abeilles. Donc, ils venaient aussi polliniser au niveau du blé en fleurs. Hein. Donc, c'était un mélange. Bon, moi, c'est mes yeux de petit garçon, hein, c'est mes souvenirs. On a comme ça des images qui sont imprégnées. Mais pour moi, le coquelicot, voilà, c'est ce rouge intense, flamboyant. C'est vraiment magnifique. Alors... Ce coquelicot, on peut l'avoir... C'est rare, autant le pavot de Californie, les Scholzia, on va acheter des graines au magasin, on va semer ça dans ces plates-bandes de fleurs. Autant le coquelicot, on ne le considère pas tellement comme une plante décorative.
Ah oui, d'accord.
Tandis que moi, là, j'ai dans le jardin, j'ai un carré de fèves, j'ai gardé les coquelicots, il y a des beaux pieds de coquelicots qui poussent dedans, et parce que je récolte aussi, parce que le coquelicot est une plante médicinale.
Ah oui, elle aide à dormir peut-être un petit peu.
Toutes ces plantes de la famille du pavot vont aider à dormir, vont être des plantes très apaisantes, mais c'est pas tout, donc voilà, le soir, une petite dizaine de coquelicots. En plus, la dizaine de coquelicots, elle a une couleur rouge, c'est joli. Le coquelicot est très adoucissant au niveau de la gorge. Dans des cas de bronchite, dans des cas de toux, et surtout dans le cas de la coqueluche, qui a presque disparu maintenant, parce qu'il y a eu les vaccinations, entre autres, qui ont fait que cette maladie, elle est plus beaucoup présente. Mais, et là, on a ce qu'on appelle le langage des oiseaux, c'est-à-dire des similitudes qu'il y a entre la toux de la coqueluche, qui ressemble un petit peu à un coq qui serait un peu enrayé enroué, mais t'as fait un peu l'enfant qui arrive pas à tousser, ça fait un peu le chant du coq, et puis la crête du coq et le rouge du coquelicot, et le nom du coquelicot aussi. Toute cette c'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux, c'est ça n'a rien de scientifique, mais c'est des similitudes entre différentes choses qui peuvent faire un lien entre des choses très différentes, une plante, un animal, et puis une maladie quelque part. Donc, en tout cas, ça marche très bien, et tout le monde en prend le soir, parce que l'enfant qui tousse, mais les parents aussi, parce que quand vous avez un enfant qui a la coqueluche et qui tousse toute la nuit et que vous n'arrivez pas à dormir, parce que bon, vous avez l'impression qu'il va s'étouffer, et pour l'enfant aussi, c'est bien d'être calmé, donc le coquelicot adoucit au niveau de la gorge, donc vous avez une bonne bronchite, vous pouvez prendre la tisane de coquelicot aussi, vous pouvez la mélanger avec de la guimauve, avec d'autres plantes aussi qui vont être bien, de la bourrache, mais le coquelicot va calmer en même temps.
Coquelicot, donc, les pétales, j'imagine,
les
uniquement.
Pétales, c'est les pétales, donc du coup, la graine est toujours là, Alors la graine, vous pouvez l'utiliser aussi, hein, vous pouvez l'utiliser comme on utilise la graine de pavot sur des gâteaux, sur du pain saupoudré. Donc vous pouvez récolter les petites capsules qui restent après.
D'accord.
Et ensuite, vous cassez les capsules, vous gardez les coquelicots, les graines.
Des graines, avec des propriétés particulières, les graines?
Les graines, elles sont aussi... calmante, apaisante, comme le pétale.
D'accord.
Donc voilà. Alors, je ne sais pas si tu vas avoir le temps de parler des autres.
Oui, on a encore un peu de temps.
Alors, si, le coquelicot aussi, j'ai oublié de dire.
Ah.
Bon, alors là, au mois de juin, il y en aura encore, parce que ça dure assez longtemps quand même, la floraison du coquelicot. Les pieds grossissent beaucoup, on a des pieds qui deviennent très gros, avec plein de tiges et plein de coquelicots.
Ça demande du soleil un peu le coquelicot, ou pas, pas
ouais. Tant oui, c'est ça pousse pas à l'ombre.
Il faut qu'il y ait du chaud
ça
un peu.
Ouais. Ça pousse, bon, on en voit au bord des routes, on voit... Et les jeunes pieds de coquelicot sont excellents en salade aussi. Avec le pissenlit mélangé avec les feuilles de pissenlit. Donc ça, c'est au printemps. Hein, ça va être plutôt début mai, disons. On peut avoir encore un peu de pissenlit. Bon, ça se regroupe un petit peu, pissenlit-coquelicot. Et en salade, c'est délicieux. Voilà, salade pissenlit-coquelicot. On peut les mettre dans des soupes aussi. Les jeunes poussent, hein, avant la floraison. Hein, les jeunes pieds, on peut mettre ça dans la soupe. On peut faire des soupes orti-coquelicot, consoute, par exemple. faut pas avoir peur. Faut avoir un peu... disons, bon, il y a des choses qu'on ne mange pas, hein, bien sûr. On ne va pas mettre un ségu, on ne va pas faire une soupe de ségu. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Et du coup, dans le jardin, ça fait remettre en question la notion de mauvaise herbe. Souvent, on est en train de nettoyer dans le jardin, et moi, quand je nettoie dans le jardin, « Ah tiens, ça, c'est un petit pied de coquelicot. Je ne vais pas l'enlever. Ça, c'est du chien-dent. Quoique le chien-dent, c'est médicinal, mais c'est un peu envahissant. Ça, je vais l'enlever. Mais le coquelicot, je vais le laisser. Le... » Voilà, bon...
Une plante aromatique, médicinale, culinaire. Oui. Et alors la dernière fois, on pouvait faire de la teinture avec les racines de je ne sais plus quelle plante. C'est peut-être le cas du coquelicot et de la pétale.
Non, là c'était sur les gaillets, sur les rubiacées.
Les gratrons.
Le coquelicot.
Non, mais c'était pour dire les propriétés.
Je ne sais pas si on pourrait faire de la teinture avec le pétale, peut-être.
En tout cas, bio-indicatrice aussi, ça fait partie des compétences des
Mais alors, le coquelicot fait partie vraiment de plantes qui poussent dans des endroits n'importe où. Parce que dans le jardin, vous pouvez en avoir au milieu des cultures, donc sur une terre bien travaillée et un peu riche, mais vous pouvez vous en trouver. Moi, j'en ai à côté de chez moi, ça, il se ressème dans le bitume.
Eh oui.
Vous avez des pieds de coquelicot, ils vont faire leurs racines, ils vont aller chercher je ne sais pas quoi, mais c'est pour ça que vous allez sur le bord des routes. Ouais. Et donc, c'est vraiment une plante très, très puissante. Elle n'est pas vivace, par contre. Le pied meurt, et par contre, il y a une multitude de graines qui, chaque petit contenant de graines va éclater quand c'est sec et les graines sont projetées tout autour. Donc ça se ressème très facilement. Donc il n'y a pas de problème. Alors, peut-être si on a quelques minutes...
Oh, allez, on va dire encore 3-4 minutes.
Ah, bon, on va commencer alors. Le pavot de Californie, l'Eschscholzia, alors ça n'a pas l'air de dire quelque chose.
Non,
alors ça ressemble un peu à du coquelicot, Le feuillage est plus fin que le coquelicot. La couleur est toujours... Alors, le coquelicot, ce n'est pas un vert-vert, c'est un vert un peu grisâtre quand même. Hein. Et là, le Pavot de Californie, les Scholzia, c'est vraiment un vert gris. Mais ça fait des comme des petits coquelicots, ouais. Sauf que le bouton n'est pas du tout pareil. Le coquelicot, il fait un bouton avec lequel on fait les petites poupées quand on le déplie. Là, ça fait un bouton tout pointu. Ça fait une espèce de pointe et après, les pétales vont s'ouvrir. Et donc, c'est pas, les pétales ne sont pas cachés comme dans le coquelicot. Le coquelicot, il cache les pétales et tout d'un coup, ça s'ouvre. Et on peut le faire ouvrir soi-même à la main en écartant un petit peu. Tandis que là, les Scholzia, c'est une espèce de... Les pétales sont en pointe et tout d'un coup, ça s'ouvre. Mais il y a pas de, ils sont pas cachés.
Rappelez-nous le nom de la famille, Papaginaceae, c'est ça?
Non,
papa, c'est papa.
Papa Veracé.
Papa Veracé.
Papa Ver, le pavot.
Papa Veracé.
Et donc les Scholzia est très très connu aussi comme somnifère. C'est vraiment, alors c'est une plante très jolie. D'un jaune orangé très joli. Contrairement au... Alors, très en rapport avec la lumière, c'est-à-dire s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de soleil un jour, les fleurs ne s'ouvrent pas. Mm-hmm. Elles restent en attente. Et il y a une heure de soleil, tout d'un coup, paf, ça s'ouvre.
D'accord.
Et là, il faut les ramasser.
D'accord.
Et donc, le coquelicot, lui, le pétale, il s'ouvre le matin. Et là, je suis rentré un peu tard du jardin. J'avais des coquelicots dans mon jardin à Villefranche. Il y en avait la moitié qui était tombée par terre. Mmh. À 4 heures de l'après-midi, voilà, la fleur ne tient pas la journée. Tandis que les Scholzia, la fleur tient. Et je crois que les 3 minutes vont être passées.
Donc, oui, c'est vrai. Je m'étais laissé embarquer, j'étais loin du chrono, mais merci Didier de...
Et donc, dans 15 jours, on continuera de parler de ces Papa Veracé.
Papa Veracé, waouh. Eh bien, je suis pas mécontent. On commence bien le mois de juin. Merci Didier, des hommes, des plantes et de la biodynamie. Une intervention à retrouver en podcast avec les autres interventions sur le site cfmradio.fr. Merci Didier.
Au revoir.
CFM Villefranche, le mag.